Vous écoutez France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, à l'approche du mondial de football, portrait du joueur anarchiste brésilien Socrates, 1954-2011. Peu de joueurs aujourd'hui seraient prêts à établir dans leur club un équivalent à ce que fut la démocratie corinthienne. Cette expérience d'autogestion mise en place par Socrates et les joueurs du grand club de São Paulo, le SC Corinthians, durant les années de la dictature brésilienne et où l'on votait pour tout, y compris la composition du pique-nique ou le moment de s'arrêter durant les trajets en bus. Le bus, décidément, c'est pour tous les joueurs de foot de la planète de grands moments de revendication sociale. Mais contrairement aux membres de l'équipe de France de 2010, la plupart des joueurs brésiliens de l'époque vivaient dans une situation précaire, comme le dénonçait Socrates, qui n'avait pas peur de dire que 90% d'entre eux subissaient des conditions de vie inhumaines et 70% gagnaient moins que le salaire minimum. C'est donc l'histoire d'un autre foot que vous propose aujourd'hui Victor Massé de l'Épinay, dans cette émission réalisée par Christine Diger.
Socrates, il était un maverick, il est presque un dieu fou.
Il est à la fois meneur de jeu, attaquant, on est revenu un peu au foot originel brésilien, l'expression collective, offensive, et c'était quelque chose d'assez libertaire.
Ce que Socrates et le Corinthians ont démontré à ce temps-là était qu'on pouvait faire quelque chose contre une dictature militaire. Et c'était grâce au ballon qu'il pouvait le faire.
Socrates qui se fait donc justice, très décontracté du reste, vraiment très très décontracté ce Socrates.
Il avait cette fierté, il était toujours un artiste, un poète, un artiste du sport, quelqu'un qui était très créatif aussi, qui adorait ce côté art du foot, de créativité, d'inspiration, de l'instant.
Socrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, un point levé et quelques talonnades.
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Grand spectacle de football donc ce soir au Parc des Princes. L'équipe du Brésil rencontre l'équipe de France à 20h30. Chez l'équipe du Brésil est recordman des victoires en Coupe du Monde. Celle que vous verrez ce soir comporte de grands artistes du ballon et il y a peut-être même des successeurs au Grand Pelé. Georges Dominique nous présente cette équipe brésilienne.
Ces gens du voyage s'appellent Edevaldo, Oscar, Junior ou Reinaldo. Le plus connu, c'est lui, Zico, surnommé le Pelé blanc. À surveiller le petit mais efficace Reinaldo, l'avant-centre. Et puis l'immense Socrates, le capitaine qui fume, ne déteste pas l'alcool et qui est surtout médecin. Pendant mes études, je jouais dans une petite équipe, c'était bien sûr plus facile. Et il y a 2 ans, quand j'ai terminé la médecine, j'ai visé plus haut. Et puis il y aura tous les autres, les descendants des triples champions du monde, du football au rythme de samba, mais capables de faire valser n'importe quel adversaire.
Maxime Bossis, vous êtes un ancien défenseur de l'équipe de France. Quel souvenir gardez-vous de ce match de 1981 au Parc des Princes ?
Je sais qu'on perd 3 buts à 1. Je sais aussi que j'ai une très très belle occasion d'entrer à 0-0. Et le problème contre Socrates et contre le Brésil, c'est qu'on n'a pas un seul joueur contre qui défendre. Il y a toute une équipe. Le ballon va plus vite que les joueurs. Socrates n'allait pas très vite. Par contre, il avait une technique telle qu'il était capable d'accélérer le jeu en jouant sans contrôle, en s'appuyant sur des joueurs aussi forts que Zico ou d'autres. Et c'est vrai que c'est le ballon qui allait très très vite. Et on était souvent en difficulté, évidemment, nous défenseurs de l'équipe de France, mais pas seulement nous, hein, contre toutes les équipes, le Brésil faisait souffrir évidemment tous les joueurs défensifs.
Nous retrouvons Paulo Isidoro coincé entre Bossis et Tigana. Il s'en sort. Cerezo pour Zico. Quand Zico a le ballon, il y a danger. Socrates est parti à grandes enjambées et c'est pas une masse à faire. Attention! Et but de Socrates. Ah, c'est encore une action à se lever. D'ailleurs, le public du parc applaudit ce troisième but, Didier. Ah oui, tous les jeunes sont partis sur le côté gauche, il y en avait deux ou trois et c'est finalement Socrates qui a hérité de ce ballon et qui, du bout du pied, un pointu, lobe Jean Castaneda, 3-0. À Socrates, c'est un cas dans le football. On vous a dit qu'il était médecin, il est pédiatre même et il se consacre au football pendant quelques temps. Il a 27 ans, 25 sélections.
Je me souviens de Socrates et surtout de son but. Je me souviens surtout du personnage de Socrates qui était un personnage totalement particulier. On ne peut pas dire, c'est vrai qu'il était irréprochable sur le plan de l'hygiène de vie. Il n'aimait pas les efforts. À l'entraînement, je crois qu'il ne faisait rien du tout. Les séances physiques, eh bien, il se traînait derrière, il fumait pas mal. Il aimait bien aussi les fêtes entre amis. Donc ce n'était pas un exemple là-dessus. Par contre, il était précurseur sur le terrain, dans la façon de se comporter, c'était un vrai patron, un vrai meneur, et surtout avec les qualités qui allaient avec, les qualités techniques. Il n'avait pas besoin de courir énormément, mais je pense qu'il a eu sa place dans le football aujourd'hui, à condition évidemment d'être un peu plus sérieux dans sa préparation.
Ah oui, sans doute, athlète.
Gianni Moura, journaliste à La Repubblica.
Si on veut dire athlète, mais c'était encore assez drôle à voir, car il était très... 1m92 avec des muscles très longs et très fins et des pieds très petits, je pense 38 de souliers. Si on le voyait vêtu en footballeur, il paraissait plutôt un joueur de basket pour la hauteur. Et aussi, il avait toujours ses moustaches et sa barbe, celui qui lui donnait un aspect classique, disons, de vieux mec. Il se prenait des pauses pendant le jeu. Et aux gens qui lui remarquaient cette faute, il répondait que sur le terrain, il y en a qui doivent courir, il y en a qui doivent penser, et que son boulot à lui, c'était plutôt de penser.
Le football est très démocratique.
Il était grand, donc on le voyait. Il était barbu, tout ce qui est en Amérique du Sud, tout ce qui est barbudo, ça renvoie évidemment à Che Guevara, ça renvoie au castriste.
Sheriff Gamour, journaliste.
On est vraiment dans l'imagerie révolutionnaire et la façon de célébrer les buts en levant le point droit. Le point droit, bon, bah, c'est le signe de ralliement de tous les damnés de la Terre. Quoi. Parce que c'est comme ça qu'il célébrait ses buts, hein, Socrates, on oublie de le dire. C'était pas les deux bras en l'air comme tout le monde, ou faire des sauts. Bon, si, c'est varié de faire des sauts, c'était surtout lever le point.
Fernando Duarte, il y a un autre geste qui caractérise Socrates, un geste technique celui-là. C'est la talonnade qui lui a même valu un surnom, au calcagnar de Deus.
Le calcagnar de Deus, parce qu'il a fait beaucoup de passes avec les talons. C'est les talons de Dieu, c'est le talon sacré. Parce que ça a été un passe typique de Socrates. Utiliser les talons comme une arme offensive. Ça n'était pas quelque chose comme un trick, comme quelque chose de le cirque. Ça a été tactiquement important. Quand il était fermé contre deux, trois joueurs, il pouvait utiliser les talons pour désarmer la marcation.
Et c'était un coup qu'il faisait assez souvent, parce qu'il disait que ça lui venait naturel. C'est une façon comme une autre, sauf que c'est une façon qui étonne toujours beaucoup les spectateurs. Même Zico se servait beaucoup de talons. Platini presque jamais, pour faire un exemple. Maradona, pas mal. Et le coup de talon, c'est un peu comme le lapin qui sort du cylindre du magicien. C'est quelque chose qui épate, qui surprend, qui fait un peu redevenir enfant.
Cerezo, pour l'instant. Socrates, qui va sans doute prendre appui sur Zico. Zico est parti, il y a un trou énorme. Et but de Zico. But parfaitement valable de Zico. Quelle belle passe de Socrates.
Pour rendre au mieux... Il avait besoin d'une ambiance particulière. Il voulait se sentir entre copains, avec un lien qui allait au-delà du même maillot qu'on portait. Et c'était un peu comme ces végétaux, ces fleurs, ces arbres qui poussent seulement dans des conditions particulières, qui ont besoin d'un terrain particulier, mais aussi d'un échauffage particulier, et qui devait se sentir un membre d'un orchestre. Il ne voulait pas être le numéro un. Il ne voulait pas être un super champion, mais seulement un bon citoyen et un Brésilien démocratique. Et que le foot était une façon de s'amuser ou même de faire politique comme il a fait.
Socrate n'était pas une personne normale, il n'était pas un jouet conventionnel. Il a étudié, il est allé à l'université, il était un docteur. Quand il doit faire une décision, le football a gagné, hein. Ouh. Grâce Dieu. Son papa a lu Marx, a lu des philosophes. C'est la raison parce que Socrate s'appelle Socrate, parce que son papa était un grand enthousiaste de la philosophie.
Rai, vous êtes le petit frère de Socrate, le sixième garçon de la famille dont Socrate était l'aîné. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre père ?
Bon, mon père, c'est quelqu'un d'origine pauvre, très pauvre, du nord-est du Brésil, dans la ville de Fortaleza. Il a dû arrêter ses études très très jeune, mais néanmoins, il a continué à étudier autodidacte. Donc, c'était quelqu'un de très 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 intelligent, une personne avec des valeurs aussi très fortes qui nous a passées, qui a fait sa vie avec honnêteté, mais qui avait un QI plus élevé que la moyenne. C'était quelqu'un qui aimait aussi raconter des histoires et bien sûr qu'il a influencé tous ses enfants, dont Socrate aussi.
Il s'est passé quelque chose un jour qui m'a marqué et ensuite je n'y ai plus pensé. C'était le jour du coup d'État, le 1er mars 64, j'avais 10 ans. Et j'ai surpris mon père en train de se débarrasser de ses livres. Ça a été un choc, vraiment. Et j'ai pas compris parce qu'il n'a rien expliqué. Il a dit non, c'est des vieux livres. Il a tergiversé. Il avait beaucoup de livres à la maison. Et il avait peur parce qu'il travaillait dans la fonction publique. Il avait beaucoup de livres, il avait Le Capital de Marx, il avait Engels, il avait tout le monde.
Gramsci.
Il disait tout, de gauche et de droite. Gramsci, Machiavel. Et là, il s'en est débarrassé parce qu'il pensait que ça pouvait lui porter préjudice. Ça a été un choc, vraiment. J'ai commencé à m'intéresser à ces livres. Qu'est-ce que c'était ? J'ai commencé à le mettre mal à l'aise. Pourquoi est-ce que tu as brûlé ces livres qui étaient là ? Mais je n'ai pas compris le sens de tout cela et je suis resté marqué.
À partir du moment où j'ai commencé à avoir notion
et j'ai commencé à avoir la capacité de comprendre tout ce qui était en train de se passer. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger sur beaucoup de choses.
Rei.
Mal prazer, é. Um rei mesmo, um imperador ali.
Quando você começou a atuar profissionalmente no futebol, isso foi no Botafogo, né?
Mineiro tocou. Mas Paulinho Sócrates. Exatamente aos 28:30 do primeiro tempo. Sócrates, camisa 8. Botafogo 1. São Paulo 0.
En fait, Socrates a commencé à jouer dans un tout petit club d'une petite ville moyenne de l'état de São Paulo, où son père, qui est originaire du Pará, un état du nord-est du Brésil, après de multiples mutations, s'était retrouvé en tant que fonctionnaire de l'état.
Michel Raspo, auteur de Histoire du football au Brésil.
Ici, un professeur d'éducation physique et entraîneur de l'équipe de football du collège l'a repéré et l'a envoyé au Botafogo de Ribeirão Preto. Et c'est donc là qu'il a commencé sa carrière, à jouer dans le championnat de l'État de São Paulo. Il a été meilleur buteur du championnat une année et c'est à partir de là que les grands clubs se sont positionnés sur lui. Donc il y avait plusieurs clubs qui souhaitaient l'engager, le Palmeiras, le club des Italiens, le São Paulo, le club plus ou moins de la bourgeoisie pauliste, et puis le Corinthians, donc le club créé en 1910 et qui est en quelque sorte le club du peuple de São Paulo.
Corinthians, Corinthians, meu amor é o... Cada minuto dentro do meu coração, Belém, Vila Maria e Moca, e São Paulo e Ascensão.
tive a oportunidade de viver boa parte.
J'ai eu la chance de vivre une grande partie de ma vie avec les Corinthiens. J'ai fait partie des Corinthiens de 79 à 84.
O Corinthians é muito mais que um clube de futebol.
Les Corinthiens, c'est beaucoup plus qu'un club de football.
Uma religião.
Les Corinthiens, c'est une religion, c'est une grande nation. Mais c'est encore beaucoup plus. Les Corinthiens, c'est une voix.
É uma forma de expressão.
Les Corinthiens, c'est une force. C'est une forme d'expression qui vient du peuple.
Num país em que os mais fracos social
dans un pays où les plus fragiles, socialement, politiquement, économiquement, n'ont jamais de voix. Dans ce cas-là, ils en ont une. Les supporters des Corinthiens utilisent leur club, leur équipe, leur expression physique comme une forme de contestation de tout ce système qui les prive de droits.
Quand en 1981, Valdemar Pires est élu à la présidence du Corinthians de Sao Paulo. David Rank, chercheur en sciences sociales. Il fait venir avec lui un sociologue qui s'appelle Adilson Montero Alves, qui est nommé directeur sportif. Ces deux dirigeants du club prennent une décision qui est assez révolutionnaire, qui est de dire tous les joueurs du club vont pouvoir participer à l'organisation de la vie du club, vont prendre les décisions. Donc il crée une forme de démocratie. Cette démocratie est étendue après consultation avec les joueurs, décidant que toute personne qui est dans le club va avoir droit de voter sur toutes les décisions importantes du club. Et quand on dit toutes les personnes, ça part du jardinier jusqu'au président. C'est ce qu'on appelle la démocratie corinthienne.
Boa bola pro Atali, olha aí. Bolão pro Sócrates, atenção! Corinthians, segundo gol no Canindé! Atali fez uma jogada magistral!
Eu não me engano, o coração é corintiano.
Donc cette démocratie corinthienne a commencé à discuter de tout ce qui concernait l'équipe. Un des grands sujets qui a été discuté a été la question de la concentration et des mises au vert avant les matchs. C'était un rituel établi de soustraire les joueurs à leur environnement familial pour se concentrer sur le match pendant deux jours avant le match. Et les joueurs en avaient un peu marre de cette situation, donc ça a été mis en débat. Et finalement, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus de concentration. Mais tout un ensemble d'autres choses ont été également décidées en commun. La répartition des primes, est-ce qu'il faut engager d'autres joueurs pour renforcer l'équipe, quel entraîneur on va choisir pour venir entraîner l'équipe. Tout ça a été mis en débat et a été discuté collectivement, de manière autogestionnaire en quelque sorte, sans que l'autorité suprême intervienne dans ce genre de débat.
D'abord, ce n'est pas la première expérience d'autogestion d'un groupe dans le football brésilien. Le premier exemple le plus connu, c'est celui de 1958, l'équipe du Brésil qui gagne sa première Coupe du Monde. C'est un exemple qui a quand même beaucoup marqué l'esprit brésilien. Dans les années 60, au moment de la mise en place de la dictature, juste avant que le régime tombe et un peu après, on a plusieurs clubs, notamment Botafogo, qui est donc un club de Rio, qui met aussi en place de l'autogestion. Alors dans tous les cas, il s'agit d'autogestion limitée, mais l'autogestion n'est pas quelque chose d'inconnu dans le paysage du football brésilien. Ce qui fait le succès de l'autogestion de la démocratie corinthienne, c'est qu'il intervient au moment de ce qu'on appelle l'abertura, c'est-à-dire l'ouverture progressive du régime militaire. L'idée est moins de relativiser que de mettre en contexte, dire c'est un mouvement qui a eu une aura sans précédent parce que les circonstances l'ont permis.
C'était effectivement en coïncidence avec la logique de libéralisation et avec la redémocratisation de la société brésilienne. Donc de ce point de vue-là, cette coïncidence et l'originalité de l'expérience du Corinthians a fait que cette expérience footballistique est devenue quelque chose comme emblématique de ce qui se passait dans la société brésilienne. Surtout que ces joueurs comme Socrates, mais aussi d'autres comme Vladimir et comme Casagrande, étaient des joueurs qui étaient politisés. Vladimir et Casagrande et ont adhéré au Parti des Travailleurs qui venait d'être créé récemment par Lula, donc. Et évidemment, les positions politiques par rapport à la démocratisation de la société et au fait que doivent revenir au peuple et aux citoyens la question de l'élection des différents échelons de la société brésilienne était une question importante.
Decidir que todo ano a gente vai sofrer. Se enrolar no pano da bandeira e reclamar se o time não vencer. Mas de repente o ano é santo, a gente tá no céu. O time é forte, a sorte é grande, axé tá com a fiel, axé tá com a fiel.
Alors David Rank, il y a donc un contexte politique qui permet à la démocratie corinthienne de se mettre en place, mais il y a aussi un contexte sportif. Quand le président Pires et le sociologue Montero Alves prennent le pouvoir, le club est en crise, en deuxième division, et c'est finalement grâce à un succès sportif, et vous insistez là-dessus, qu'ils vont pouvoir continuer l'aventure et rester à la tête de ce club pendant quelques années.
Alors ça c'est très intéressant, parce qu'il y a toute une littérature au Brésil, dont un film qui s'appelle « Être champion est un détail », qui justement minimise cet aspect. Alors effectivement, Pires arrive en 81 dans un contexte de crise, il est confirmé dans un contexte de résultats qui sont meilleurs, il y a effectivement un titre de champion qui vient couronner leur politique sportive, et il perd les élections en 85 sur des mauvais résultats sportifs. Donc même si les Brésiliens disaient « champion est un détail », il y a quand même un élément important qui est que cette démocratie corinthienne a permis au club d'avoir de bons résultats.
Le truc qui fait que ça a pu déborder du cadre du club, le cadre du football, c'est que Socrates, il a toujours côtoyé des intellectuels. Des intellectuels, des artistes, des journalistes. Et par exemple, les Corinthians, les footballeurs, il y en a qui étaient vraiment beaucoup qui étaient passionnés de musique et tout. Donc on jouait de la musique. Quand on joue de la musique, il y a qui rapplique, Chico Buarque, commence à parler de la condition ouvrière. Voilà, on rencontre des syndicalistes, voilà, il y a des journalistes, des écrivains. Et c'est comme ça que le mouvement pour la démocratie commence à se structurer. C'est une sorte de constellation. Et dans cette constellation, tu as une étoile qui s'appelle Corinthians avec Vladimir, avec Socrates. C'est plus, je dirais, un phénomène de catalyseur, les Corinthians. Parce qu'eux, ils ont une visibilité directe par le football. Comme on sait que le football, c'est le sport numéro un au Brésil, tout de suite, ça attire l'attention. Alors, comment ils se sont fait remarquer? Par des slogans comme gagner ou perdre, mais en démocratie. C'est des slogans qu'ils ont affichés dans une grande banderole juste avant que le match commence et tout. Ça, c'est un truc qui sera impossible aujourd'hui, hein, faut le rappeler. Hein. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA interdit toute démonstration politique. Alors qu'à l'époque, en plus, ils prenaient des risques. Hein. C'était la dictature militaire. Il y avait, on n'était plus non plus dans le cycle de répression de la fin des années 60 et 70 avec les assassinats politiques. Et je sais qu'il y en a eu. Mais quand même, il y avait quand même un risque de s'attaquer à la dictature militaire qui était solidement en place. Donc, ils ont développé leur fameux slogan, que ce soit par des grandes banderoles et tout, qui appelaient les gens à voter. Et aussi, ils portaient des bandeaux sur le front, surtout Socrates, avec des slogans, liberté pour le peuple, démocratie pour le peuple, ou... Socrates était vraiment, vraiment impliqué là-dedans. Les autres aussi, mais lui plus que les autres.
Você vai sofrer. Si você vai chorar.
Dans cette période à la fois de libéralisation et de grand espoir qui s'est inscrit, incarné dans l'ensemble de la population brésilienne, Socrates a été, de par sa culture générale, mais aussi sa culture politique et sa culture en termes musical, artistique, il a pu concentrer sur lui-même tout un ensemble de choses, de contestation, d'effervescence, et se constituer en figure emblématique d'une transformation de la société brésilienne.
Brésil a battu la France, l'Angleterre et l'Allemagne à la même semaine, à 81. Quand ils sont arrivés à Espagne pour la Coupe du Monde, tout le monde a pensé, oh, alors, le Brésil va gagner.
Conseguimos conquistar com um braço forte. Eu pensei, eu
joli, magnifique tir de Socrates, là des 20 mètres, une splendide action du numéro 8 brésilien, tir fabuleux à mi-hauteur, qui a pris en défaut l'excellent Kassaïev.
Le Brésil a séduit face à l'Union soviétique, l'emportant par 2-1 et montrant que son titre de favori n'était pas du tout usurpé. Christian Binder était dans les tribunes du stade de Séville.
Quel plaisir ce Brésil-là. Si je vous disais que par moments j'avais la chair de poule face aux arabesques des Falcao, Zico, Socrates, Paulo Isidoro. C'est certain maintenant, on a retrouvé le vrai Brésil, le Brésil de toujours, celui du football panache, celui de l'imagination au pouvoir, celui des mille improvisations toujours renouvelées. Et pourtant, ils en ont eu des malheurs, les Brésiliens, hier soir. Il y a d'abord eu ce but surprise du soviétique Ball, avec le ballon qui joue les savonnettes dans les mains de leur gardien de but. Et puis il y a eu la malchance, la maladresse aussi de leur avant-centre, Serginho, un grand bougre de Grochet qui s'est amusé une bonne demi-douzaine de fois à envoyer le ballon dans les nuages. Mais heureusement, il y a eu surtout en fin de match ces deux buts fantastiques de puissance et de précision de Socrates et d'Eder, venant ponctuer des attaques de grande envergure. Oui, oui, le Brésil est de retour à Séville hier soir, enfin, c'est le football qui a gagné.
Olha a chance com o Sócrates. Ganhou bem do primeiro. Do segundo. O tiro é bom.
Cette équipe du Brésil, elle avait tout. Elle avait une expression collective absolument télépathique. La fascination du football brésilien, elle vient de là, c'est de la relation télépathique qui est entre les joueurs. C'est des joueurs qui ont tout pour pouvoir s'exprimer de façon individuelle et faire des choses absolument extraordinaires. Mais ça, ils arrivent à le mettre au service du collectif. Et quand on arrive à cette synthèse aussi parfaite, c'est vraiment qu'on a un football extraordinaire que n'importe qui peut apprécier. L'équipe du Brésil, c'est un enchantement parce qu'il y a, quand tu vois certains matchs, moi je pense à certains mouvements, par exemple contre l'Écosse, le ballon va d'une aile à l'autre, mais tout en avançant, avec une transmission, mais à une touche de balle. Et on sait très bien que la perfection du jeu collectif, c'est les beaux mouvements à une touche de balle. Et puis ça se finit par un but. Et tous les beaux gestes du foot, on les a vus. Tous les beaux mouvements du foot, on les a vus. Et un détail aussi, en 82, le Brésil, il joue encore avec un maillot jaune d'or. Parce qu'avec les années, notamment dans les années 90, on joue avec un jaune pisseux, jaune jonquille et tout, dégueulasse. C'est des détails visuels, mais c'est pas le même Brésil, quoi. C'était une équipe souriante, contente de jouer, heureuse de jouer. Je dirais même trop heureuse. Voilà, on avait envie de les aimer.
Je pense que c'était un Brésil qui était trop sûr de gagner et qui a un peu perdu sa confiance quand il a été obligé à remonter, à courir après le résultat. Mais ils étaient les plus brillants, je crois, et aussi les plus forts jusqu'à ce moment-là. En Italie, on était presque résigné à perdre. Il y a eu un fait extraordinaire, que Paolo Rossi, jusqu'à ce moment-là, avait été le pire joueur de l'équipe italienne. Et que ce qu'on reprochait davantage au sélectionneur Enzo Berzot, c'était d'avoir confiance dans ce garçon qui ne voyait plus la porte, qui ne réalisait jamais un but. Ils ont payé une journée absolument inattendue de la part de Paolo Rossi et de l'équipe italienne et aussi un peu leur faute.
di nuovo Rossi, di nuovo Rossi su calcio d'angolo, terzo gol di Rossi.
Fernando Duarte, vous venez de publier un livre intitulé « Shocking Brazil, 6 matchs qui ont bouleversé la Coupe du Monde ». Pourquoi est-ce que cette défaite de 82 reste un tel traumatisme au Brésil ?
82 n'est pas seulement une défaite de football, une défaite sportive, une défaite politique aussi. À 82, le Brésil était encore avec les militaires. Le Brésil n'était pas une démocratie. À cette époque, les mouvements démocratiques ont commencé à faire plus revendications, à être plus forts. Et cette équipe, celle nationale, elle a représenté la volonté des gens pour démocratie, pour liberté. Ils ont joué avec la liberté, ils n'ont pas joué comme militaire. Parce que dans 1974 et 1978, le Brésil a joué avec la discipline. L'entraîneur était un capitaine des armes, Claudio Coutinho, un capitaine, un militaire. Et après ça, on avait un esprit de démocratie qui était représenté pour la nationale. Et ils ont joué bien, ils ont joué avec beaucoup d'amour, beaucoup de finesse. Et ça, de fait, a cassé les espoirs des Brésiliens. En beaucoup de niveaux, non seulement au niveau sportif. Mais la différence entre cette Brésil, Brésil national et les autres qui ont perdu la Coupe du Monde, c'est que 82 équipes, elle a reçu beaucoup d'amour. Les gens étaient vraiment tristes. Ils étaient énervés pour la défaite, mais ils étaient plus tristes que ça. Parce que l'espoir était cassé à 7 jours.
Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera.
Parce qu'en fait, il faut savoir s'ils ont été éliminés en 82 donc, par l'Italie. Et qu'en fait, un match nul les qualifiait. Et à 2-2, ils ont continué à attaquer. C'est là qu'ils se sont fait surprendre. C'est là qu'ils ont pris le troisième but contre l'Italie. C'est comme ça qu'ils ont été éliminés. Mais bon, après, c'est beau, quoi. C'est romantique. Ils sont morts debout, hein, comme on dit. Ils sont morts avec leur philosophie, leur éthique. Comme Socrate, l'ancien, quoi, le philosophe, quoi.
Rai, quel souvenir Socrate garda-t-il de cette défaite ?
Bien sûr, ça lui a blessé qu'il ne gagne pas parce qu'il ne s'attendait pas, même s'il était fier d'enchanter le monde, mais ils étaient sûrs qu'ils pouvaient aller au bout parce qu'ils étaient tellement au-dessus des autres. C'est une chose qui, quand il parlait, je l'ai vu parler de 82, il y a 5-6 ans, et à chaque fois qu'il parlait, il y avait des larmes dans les yeux, il était ému, quoi. Non seulement parce qu'ils ont perdu, mais aussi parce que c'était un moment très fort du groupe, de cet effectif qui était merveilleux et qui ont su marquer un moment de l'histoire.
Vai apitar Klein. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Classificou a Itália. 3-2 num dos maiores jogos de todos os tempos. Pena que jogo como esse fosse desclassificar uma seleção que brindou o público do mundo inteiro com o futebol considerado até de uma outra galáxia.
Sócrates, eu penso que après 82, ele a perdu l'amour pour football. Il n'a jamais vu la partie à la télé, par exemple. Il m'a dit ça, je ne vais jamais regarder ces matchs contre l'Italie. Je n'ai pas de courage pour faire ça. Et une autre chose, Sócrates, il aimait beaucoup la cervoise. L'alcool,
la bière.
La bière, ouais. Il aimait beaucoup la bière. Et après 82, il a commencé à boire fortement. Ça n'était pas comme Garrincha. Garrincha, il y a quelque chose avec l'ignorance. Socrates, il savait. Ah, c'est l'alcool, mais il me fait plaisir. Et alors, il était comme un poète beat ou comme un rock'n'roll star. Et il était toujours joyeux avec un vase de bière dans ses mains.
Corinthien de mon cœur, tu es religion de janvier à janvier. Être corinthien, c'est aller plus loin que d'être ou ne pas être le premier. Être corinthien, c'est aussi être un peu plus brésilien. Toquinho et Socrates.
És grande no esporte bretão. O passado ilumina tua história. Ciente da tua missão. Vitória, vitória, vitória. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro.
Il y a un leader de fait, un leader vis-à-vis des médias.
C'est pour ça qu'en 84, dans la Réunion, où il y a eu 1,5 million de personnes qui viennent faire pression sur le Congrès brésilien pour la tenue des premières élections présidentielles libres depuis 1964, c'est lui qui parle, c'est lui qui fait cette promesse de rester aux Corinthians si les élections sont autorisées.
Aujourd'hui, nous, les Brésiliens, nous prenons une leçon de dignité. Je suis sûr que vous pouvez imaginer l'avenir quand nous aurons des élections libres et directes. Ça sera merveilleux. Je suis sûr que vous, vous êtes ici pour lutter pour ce en quoi vous croyez et que nous obtiendrons mercredi prochain. La liberté de tous les Brésiliens.
Tu n'iras pas en Italie si quoi, Socrates?
Si l'amendement de Dente Oliveira est approuvé par le Congrès, je ne quitterai pas mon pays.
Répète-nous ça, docteur, répète-le. Si l'amendement est approuvé,
je ne quitterai pas notre pays.
Cette promesse de rester aux Corinthians si les élections sont autorisées, ce qui ne sera pas le cas, donc il partira à la Fiorentina.
Socrates est arrivé en Italie avec beaucoup d'enthousiasme. Il aimait l'idée, la perspective de se retrouver dans une terre d'ancienne culture et surtout dans une ville d'art comme Florence. Et dans la première rencontre qu'il a eue avec des journalistes italiens, dès qu'il est arrivé, il y en avait un qui parlait portugais. Et Socrates lui a dit, est-ce que tu pourrais me procurer une copie de lettre de la prison de Gramsci en italien, car je voudrais le lire dans la langue originelle. Ce qui a fait un certain bruit, parce que, bon, des joueurs de gauche, oui, mais qui demandaient un livre de Gramsci, qui a été parmi les fondateurs du Parti communiste italien, je le rappelle, en passant.
Tu passes du football brésilien, sud-américain, surtout au Brésil et tout, tu vois, en Europe déjà, c'est notre galaxie, puis qui s'est retrouvé dans le football italien des années 80, genre, c'est une fosse au lion, c'est le lac aux requins, enfin déjà... Lui, il vient du Brésil où il y a la notion de plaisir, la notion de collectif, la notion du beau jeu. Il arrive en Italie, c'est la culture du résultat. Avec latteur, tricheur, il y a encore du dopage. En Italie, t'as raté une passe, les mecs viennent te pourrir la vie, la presse était hystérique. Le choix sportif en tant que tel, il est parfaitement logique. Il allait dans le meilleur championnat du monde, le plus compétitif. Mais je veux dire, par rapport à son caractère, par sa vision du jeu, en plus, quand tu regardes bien dans les années 80, à chaque club, t'as un artiste et c'est tout. À la Juve, t'as que Platini, à Naples, t'as que Maradona, alors qu'au Brésil, c'était pas comme ça.
Il faut dire une chose. Socrates jouait dans une équipe, pas parmi les grandes équipes italiennes, qui avait la lumière suffisante pour faire de n'importe qui un champion. Le football était dominé par Inter, Milan et Juventus, comme apparition des équipes du Sud. Florentina n'était pas une grande équipe, c'était pas le scénario idéal. En plus, Florence est une place très très difficile pour le football. Les Florentins se pensent d'être les plus intelligents du monde. Probablement, si on contrôle leurs ancêtres, ils le sont. Hein. Mais le mal, c'est quand ils le savent, ils le disent. Non? Et Socrates, au fond, qu'est-ce qu'il faisait? Il prédiquait la démocratie. En Italie, on était convaincu de vivre en pleine démocratie. En plus, il n'avait pas de grands compagnons à ce temps-là dans l'équipe de football de Florence. Et en plus, on a fait vite à prendre, secondo in Italia, le misure di lui, je parle surtout de défenseur, à le marquer, le contrôler farouchement, à faire aussi du jeu sale sur lui, mais il n'en a pas réagi, il s'en foutait de tout, et il buvait des bières, voilà. Et...
La squadra di Cremonese ha dato molto di più che la nostra squadra.
L'équipe de Cremonese a beaucoup mieux joué que nous, et ils auraient mérité de gagner. C'est ainsi que le docteur Socrates à analyser la rencontre. Comment ne pas être d'accord avec le philosophe au gant noir qui, à 4 minutes de la fin, a fait avaler la ciguë, égalité, devait-il penser, à Mondarico en marquant avec nonchalance. Gianpaolo Ormezzano, vous étiez directeur du quotidien Tutto Sport dans les années 80. Vous êtes allé voir Socrates à Florence.
Je suis resté une journée à Florence avec Socrates pour essayer de dévoiler, si on pouvait, le mystère de cet homme qui n'était pas dans son ambiance. Quand même, les supporters de la Fiorentina Football sont trop acharnés, sont trop mauvais et trop intelligents aussi. Ils n'acceptaient pas ce type-là. Ils voulaient la solidité de goal, de but. Et Socrates est inquiet, car il était venu évidemment à Florence sur l'élan de ses études pour vivre un petit peu de la renaissance permanente de la ville. Et il était accusé de ne pas faire beaucoup de buts sur le terrain. Socrates, c'était ce type-là, à Florence, avait face à lui des différentes voies à prendre. Il pouvait faire le joueur, il avait la classe, le génie, le talent, et même le physique, il était très costaud pour le faire bien. Il pouvait vivre, s'amuser, et exploiter l'argent qu'il lui donnait. Il avait une ville à ses pieds, mais surtout les femmes l'adoraient, bien qu'il était. Il avait porté sa femme et des enfants du Brésil. Il avait tout, mais il était triste, il avait autre chose à penser. Peut-être il pensait à son Brésil, qui le sait, ou il pensait à un gouvernement militaire qu'il n'aimait pas, et il pensait à cette Italie drôle qui, dans le football, n'avait pas répondu à son personnage. Voilà.
Avant tout, je suis un combattant. Toutes ces critiques ne me feront pas changer ma manière de vivre et de penser. C'est beaucoup trop important pour moi. Je ne sais pas combien de temps je vivrai, mais je veux vivre bien jusqu'au bout. Je veux montrer aux gens, et surtout à ceux qui n'ont pas accès à l'éducation et à l'information, qu'ils doivent et qu'ils peuvent vivre ainsi. Avec toutes les libertés, avec tout le désir et l'amour de la vie.
Quand il est rentré au Brésil de la Fiorentina, il a eu pas mal de problèmes parce qu'il était quelqu'un d'une personnalité forte, il y avait des choses qu'il n'était pas d'accord en Italie, des problèmes des rapports avec les dirigeants et tout ça. Donc il est rentré. Mais après, il y a eu des autres expériences en dehors du Brésil, comme entraîneur en Équateur. Et à un moment donné, il me disait qu'il n'était pas capable de vivre en dehors du Brésil parce que ça lui manquait trop. Il aimait Florence, la ville, mais en même temps, le Brésil était en ébullition, transformation, je crois que ça lui manquait aussi.
Discuter de la décision de Socrates de partir à la Fiorentina si les élections libres n'étaient pas mises en place. C'était peut-être pas une attitude finalement très combattante. Même s'il était très humble, il était quand même en grande partie l'âme de cette démocratie corinthienne. Et le fait que il quitte le club pour l'Italie. C'est quand même un élément considérable de cette démocratie qui a quitté le club et qui, à partir de là, cette démocratie corinthienne a effectivement perdu un petit peu de sa force, de sa sérénité et de sa puissance par rapport aux instances dirigeantes du club. Et effectivement, c'est concordant avec la fin annoncée de la dictature. Mais je crois que cette expérience de la démocratie corinthienne ne pouvait pas durer éternellement dans la mesure où les joueurs passent et instaurer quelque chose qui perdure à l'intérieur d'un club alors que les joueurs passent, alors que la société de son côté se transforme. Et donc, quelle nécessité en quelque sorte y a-t-il à maintenir une position emblématique à l'intérieur de l'espace du football, alors que le reste de la société est en train de changer et d'aller vers quelque chose que l'on suppose évidemment meilleur que la dictature. Il y a un petit peu de cet aspect-là qui explique la fin de cette démocratie corinthienne.
Après, je veux dire, quand La carrière de footballeur s'est arrêtée. Il y avait aussi une boulimie de musique, de lecture, de politique, de voyage, enfin d'ouverture, de plein de choses. Surtout, la chose fondamentale, c'est un type qui a été toute sa vie marqué par l'injustice, la pauvreté, les inégalités, quoi. Alors, il y a toujours l'image de l'intellectuel qui prend tous les malheurs du monde sur ses épaules et qui s'en sort pas. Mais Socrate, il avait un peu ça. C'est pas une légende, quoi. Et ça lui arrivait souvent d'avoir des grandes périodes de déprime où il se mettait à pleurer simplement parce que au vu de la misère omniprésente au Brésil. Et en plus, pour corser le tout par rapport à Socrate, c'est que lui, en tant que joueur, il y avait le recul critique au Brésil de penser que le foot n'est pas tout. Il estimait qu'un pays qui ne vit que pour le foot, c'était un peu désespérant, dans le sens où il y avait plus important que le foot, l'éducation, la santé, le travail, le logement.
Ah, et à la fin de votre carrière, vous avez créé une fondation, Gol de Letra, pour aider les enfants défavorisés au Brésil. Et vous y consacrez beaucoup de temps et d'énergie. Socrates, lui, a eu beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais n'a pas eu, semble-t-il, d'engagement très concret.
Il a fait des projets, il aidait un peu dans la politique du sport de la ville où je suis né, à Ribeirão Preto. Je crois que sa génération, à lui, a eu une autre façon d'engagement. C'est un engagement politique, donc c'est toujours un esprit critique. Il était journaliste après, il fait des chroniques. C'était un provocateur, même s'il y a eu des moments qu'il n'y a pas eu une action directe sur le terrain. Il a toujours eu une influence sur l'histoire du pays, l'évolution sociale de notre pays aussi.
Et il avait toujours un regard critique sur le football. Qu'est-ce qu'il pensait du football aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il attendait peut-être? Est-ce qu'il était content de voir arriver, quelques années plus tard, la Coupe du Monde au Brésil?
Bon, il était très critique, mais surtout dans la politique du foot brésilien. Surtout lui qui a lutté toute sa vie pour la liberté d'expression, la démocratie. Ce sont des choses que le foot brésilien ne connaît pas. Ce sont un groupe qui domine le foot depuis 40 ans. Et donc il était aussi critique là-dessus. Donc il trouvait que le Brésil, la fédération brésilienne, peut-être ne méritait pas une Coupe du Monde au Brésil à ce moment. Mais je crois qu'il y aurait eu un regard très, très critique sur la Coupe du Monde et ce serait important aussi dans le contexte à ce moment-là.
Il y a quelque chose qui était important, qui a été appelé la révolte du vinaigre au Brésil, qui est donc le mouvement qui a eu lieu au début ou juste avant la Coupe des Confédérations, qui a eu lieu un an avant la Coupe du Monde pour tester les installations sportives. Un mouvement qui a été très critique vis-à-vis de la tenue de la Coupe du Monde au Brésil. Là, je pense qu'on a beaucoup plus des héritiers de Socrates dans ce mouvement, dans la prise de conscience d'un certain nombre de joueurs, notamment de Romario, qu'on l'a eu auparavant. Il y a cette idée dans la démocratie corinthienne qui est de dire le football est central dans la vie des Brésiliens et central dans la façon dont les Brésiliens voient la société, mais il faut mettre la popularité du football au service d'autre chose que justement le football. Et dans ce mouvement de révolte contre la Coupe de Confédération, on a très nettement vu ça. Des gens qui ont dit le football c'est bien, mais le football c'est mieux s'il sert à ce que les enfants soient scolarisés, ce qui est un peu le but de la fondation de Rai avec Gol de Letras, donc Rai le frère de Socrates. C'est embêtant que le football amène à une augmentation du prix des cartes de transport à São Paulo, c'est comme ça qu'est née la révolte du vinaigre. Donc là je vois beaucoup plus les héritiers de Socrates dans un mouvement qui paraît contre le football, mais qui a été en fait assez rejoint par beaucoup de footballeurs.
Viola cabocla feita de pinheiro que leva alegria pro sertão inteiro, trazendo saudade dos que já morreram. Nas noites de lua tu sai no terreiro.
Éternellement, on se souviendra de Socrates, le barbudo, le barbudo, le point levé. Il y a une grande bonté qui se dégageait de... C'était un mec sain. Il n'y avait rien de fabriqué, il n'y avait rien de faux, il n'y avait rien de malsain, il n'y avait rien d'inauthentique, quoi. Le mec a vécu comme il était, au niveau des principes de vie, des principes politiques. Le mec n'a jamais déçu. Le seul truc qui rend toujours mal à l'aise avec Socrates, c'est son autodestruction.
Viola de pinho
Il faut le dire que Socrates était malade et que Socrates était surtout quelqu'un qui brûlait un petit peu la vie par les deux bouts, avec beaucoup d'activités professionnelles, puisqu'il était commentateur pour des émissions de télévision, qu'il écrivait dans les journaux, qu'il n'hésitait pas à répondre à toute invitation qui lui était faite. Et en même temps, il était fumeur et surtout, il était consommateur d'alcool en grande quantité, puisqu'en fait, à la fin de sa vie, il était réellement alcoolique. Et que c'est lié donc à des complications médicales de santé qu'il est mort prématurément à l'âge de 57 ans. Coïncidence, sa mort a eu lieu un dimanche matin à 14h30 du matin, le jour même où Corinthians jouait le dernier match du championnat du Brésil de 2011, la dernière journée de ce championnat. Et ce jour même, Corinthians est devenu champion du Brésil. Le stade de Pacaembu, un stade construit dans les années 40, était bien sûr plein de 40 000 personnes pour ce dernier match du Corinthians, puisque c'était annoncé comme le titre de champion du Brésil. Et ce qui s'est passé donc ce jour-là, c'est que une minute de silence a été faite évidemment dans le stade et que l'ensemble des 40 000 spectateurs ont levé le poing, comme levait le poing Socrates quand il avait marqué un but lors de sa carrière sportive et comme il levait le poing quand il contestait la situation politique au Brésil. Donc ça a été un moment d'émotion considérable pour les supporters du club de Corinthians, mais également un moment d'émotion considérable pour l'ensemble des supporters brésiliens, et je pourrais dire l'ensemble du Brésil, puisque la figure de Socrates était une figure qui excédait largement la dimension sportive et la dimension football.
Je crois que le football italien actuel, et peut-être aussi le football de tout le monde, soit le terrain idéal pour faire si que les belles figures, les figures intelligentes, prennent une dimension de plus en plus extraordinaire, car maintenant les joueurs ne sont plus connus, ne sont plus fréquentés. Ce sont des hologrammes. Socrates était un homme, et je crois que plus le temps il passe, plus il prend de l'envergure, non, de la hauteur, de la taille. Non, non, Socrates a fait quelque chose. Il a tatoué l'Italie. Il a tatoué l'Italie même s'il n'a pas fait de but. Car il n'a pas fait de but. On a deviné en lui le grand talent et on a réfléchi peut-être, sans le savoir, sans le faire exprès, sur le fait que ce grand talent avait été déçu de nous et que c'est notre faute à nous. Mais vous savez, le soif de liberté, l'envie d'être hors du commun, l'envie de faire quelque chose de différent, l'envie de se battre contre tout genre de dictature, heureusement, sont éternelles dans l'homme.
Un poète de votre, qui était Jacques Prévert, a écrit que le jardin reste ouvert pour ceux qui l'ont aimé. Et je crois que Socrates soit à présent un beau jardin, un petit parc avec des arbres, des banques, on peut s'asseoir, un peu de gazon. Ce n'est pas un fantôme, parce qu'il a fait quelque chose de sérieux et qui n'était pas facile à faire dans ces années-là. Il a interprété le football d'une façon qui peut paraître un peu dandy, mais je pense qu'il cherchait surtout à s'amuser sur le terrain et à lier avec les autres. Puis, je trouve que c'est un beau souvenir, Socrates. Il y a quelque chose qui reste, un peu comme un refrain que ne réussit pas à oublier. Vous savez, aujourd'hui, il y a une fabrique des idoles, des icônes qui est trop vite. Si on en parle une trentaine d'années, du période de sa splendeur et à deux années de sa mort, c'est qu'il a fait quelque chose, en effet. Il aurait pu faire mieux, peut-être, mais je pense qu'il a... Ça, c'est une bonne façon de penser à un type fameux qui est mort. Il a vécu comme il voulait. C'est déjà quelque chose.
Ele fez o sol levantar.
Puxa, igualzinho ao Orfeu.
Agora você é Orfeu.
Não.
Sim, toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca.
Ele était un joueur de nous. Il était notre. Il était notre, pas seulement de Corinthians. Il était son prénom brasileiro, Sócrates brasileiro. Je suis triste à ce moment parce que je me rappelle de lui. Je n'aime pas Corinthians. Hein, c'est triste parce que je ne peux pas penser à la Coupe du Monde en Brésil sans Sócrates pour parler, pour faire les déclarations mauvaises, pour faire les déclarations polémiques. J'ai connu Sócrates. On a boit ensemble en Angleterre quelquefois. On a boit 7 bières à Leeds et on a fait des schistes. J'étais très, très, très triste quand il est parti parce que le football, je pense que le Brésil, principalement, a perdu en référence, en personne fantastique. Je pense seulement que s'il est là-bas, au quelque plan, on souhaite maintenant que, docteur, tu me manques, docteur, tu manques tout nu.
Lari, lari, lari. Felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada.
C'était Sócrates, un point levé et quelques talonnades, avec Maxime Bossis, Gianni Moura, Shérif Guémour, Michel Raspo, Gianpaolo Armezzano, David Rank, Fernando Duarte et Rai.
Il faisait toujours une blague qui disait qu'il lui était le plus âgé, mais qui en fait, dans l'esprit, il était le frère le plus jeune. Et c'était un peu vrai, parce que plus le temps s'avait, même s'il était critique dans les chroniques, dans ses positions, dans la vie de personnel, le contact quotidien, il était heureux avec lui-même, avec sa vérité. Donc il avait sa lutte, mais dans le quotidien, il était un ami fidèle. Il était toujours joyeux, il a eu plein d'enfants dans la famille. Donc c'était quelqu'un de joyeux, c'est ça l'image qui reste pour nous, plus proche. Et pour moi aussi, personnellement, comme on avait des personnalités différentes, j'ai essayé de... Parfois, j'ai lui dans ma tête qui me fait « il faut être plus fort, plus ferme, il faut être plus polémique, il n'est pas assez polémique ». Donc c'est quelqu'un qui me provoque toujours, sa présence va toujours provoquer pour me pousser vers l'avant.
Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira, deu um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais. As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os apitos finais.
Merci pour leur aide à Véronique Delorme, André Ineto, Stéphane Régis, Lucas Duvernay-Coppola, Wilfried Prévost, Olivier Poujade, Andrea Alker, Romain de Becdelièvre et Mimmo Calopresti. Traduction et doublage Jean Fabremons, recherche INA Gwen Michel et Pascal Le Berrier, prise de son Dofar Guérid, Anthony Thomasson et Tristan Gratalon, mixage Philippe Palares, attaché d'émission Laurence Genepin. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Christine Diger.
C'était Une Vie, Une Œuvre aujourd'hui consacrée au joueur de foot et anarchiste Sócrates. Merci à Victor Massé de Lépinay et à Christine Diger. Vous savez, cette émission peut être téléchargée, vous pouvez la conserver. Rendez-vous pour cela sur notre site ou alors directement sur les plateformes de podcast. Et puis sur les réseaux sociaux, retrouvez la carte mentale des personnes dont nous parlons dans l'émission. La semaine prochaine, dans Une Vie, Une Œuvre, à l'occasion d'un week-end spécial Michel Foucault, Nous vous proposerons une émission consacrée à ce grand philosophe français, mais dans quelques secondes sur France Culture, c'est le Carnet d'Or. Augustin Trapenard, très bon après-midi à toutes et à tous.